Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pendant une heure pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté un projet de résolution russo-chinois sur la création d'une commission indépendante afin d'enquêter sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. L'homme politique français François Asselineau nous décryptera les raisons qui se cachent derrière ce rejet au moment où le conflit ukrainien pourrait connaître un dangereux tournant. Minsk souhaite renforcer sa présence diplomatique en Afrique, le Burkina Faso qui accepte une aide militaire de la Côte d'Ivoire et Donald Trump convaincu que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont discuté de l'ordre mondial pour les 100 prochaines années. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergueï Alenik, a déclaré en marge de pourparlers avec son homologue zimbabwéen, Frédéric Chava, que Minsk prévoyait d'étendre sa présence sur le continent africain. Le chef de la diplomatie biélorusse a souligné que son pays construisait sa coopération avec des pays dont les portes lui sont ouvertes et que le Bélarus peut ouvrir encore plus largement grâce à des efforts conjoints. Avec le Zimbabwe, un plan d'action a été élaboré et approuvé afin de développer la coopération entre Minsk et Harare. Il comprend des projets dans des domaines différents, notamment ceux de l'agriculture, du commerce, de l'économie, de la médecine, de l'industrie et de l'exploitation minière. Monsieur Alenik a déclaré que Minsk avait réduit sa présence diplomatique dans les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, tandis que celle-ci a été au contraire renforcée dans les États d'Amérique latine, d'Océanie et au Moyen-Orient. La Côte d'Ivoire va aider le Burkina Faso sur le plan militaire. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a annoncé qu'il acceptait l'idée d'opérations conjointes avec son voisin ivoirien. Ce n'est pas la première fois qu'Abidjan prête main forte à Ouagadougou. En janvier 2023, la Côte d'Ivoire a fourni à titre gratuit au Burkina Faso du matériel militaire composé d'une cinquantaine de véhicules pick-up, 100 kalachnikovs et 100 000 munitions. Pour rappel, les deux pays partagent plus de 500 km de frontières communes. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire a subi plusieurs attaques terroristes dans le nord. Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a déclaré qu'aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. C'est pour cela qu'Abidjan est venu en aide à Ouagadougou, a indiqué M. Koulibaly. L'ex-président américain Donald Trump en est convaincu. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a estimé qu'il s'agissait de l'une des choses les plus tristes que l'on puisse imaginer que Poutine et Xi Jinping discutent de l'ordre mondial pour les 100 prochaines années. Ce qui a attiré l'attention de Trump et l'a amené à faire une telle conclusion, c'est une vidéo où on voit le dirigeant chinois dire à son homologue russe qu'ils étaient en train d'observer des événements sans pareil depuis 100 ans. Pour Donald Trump, qui souhaite revenir à la Maison-Blanche en 2024, ce constat marque un point bas dans l'histoire des États-Unis. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur 99.5 FM. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. La saga de l'explosion des gazoducs Nord Stream continue. Une résolution russo-chinoise au Conseil de sécurité de l'ONU a été rejetée. Elle proposait de créer une commission internationale indépendante chargée de mener une enquête transparente et impartiale sur le sabotage des pipelines transportant le gaz russe vers l'Europe occidentale. La Russie, la Chine et le Brésil ont voté en faveur de la résolution. Les autres pays, dont les États-Unis, se sont abstenus. Pourtant, trois investigations sont en cours. Elles ont été lancées par l'Allemagne, le Danemark et la Suède, sans en inviter la Russie, malgré plusieurs demandes en ce sens. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, l'émergence de la vérité portera préjudice aux États-Unis si une véritable expertise était menée. Pour rappel, des explosions ont eu lieu le 26 septembre 2022 sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. L'Allemagne, le Danemark et la Suède n'ont pas exclu la possibilité d'un sabotage ciblé. L'opérateur des pipelines a indiqué que les urgences sur les gazoducs sont sans précédent et qu'il est impossible d'évaluer le calendrier des réparations. Le bureau du procureur général de Russie a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international. Le 8 février dernier, le journaliste américain Seymour Hersh a publié son enquête sur les explosions des gazoducs. Le reporter, lauréat du prix Pulitzer, a affirmé que des engins explosifs ont été placés sous les pipelines en juin 2022 par des plongeurs de la marine américaine et des spécialistes norvégiens. Selon Hersh, l'opération a été décidée par le président américain Joe Biden. Ce n'est pas la première fois que Seymour Hersh livre de telles révélations. Le journaliste est connu pour avoir dénoncé dans les années 70 le massacre de civils vietnamiens à My Lai ainsi que sa dissimulation par les Américains. Il a également joué un rôle important dans l'enquête du Watergate qui a fait chuter le président de l'époque, Richard Nixon, et dans les années 2000 lorsqu'il a révélé les tortures et mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens de guerre dans la prison d'Abu Ghraib. Pourtant, malgré ces faits d'armes qui attestent d'une forte expérience en la matière, la chef du service de presse du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a qualifié ces affirmations de mensonges complets et de fiction. Peu de temps après, une nouvelle version des faits a été publiée dans un journal américain. Selon la publication, un groupe pro-ukrainien serait à l'origine de l'explosion des pipelines Nord Stream. Les autorités russes ainsi que de nombreux experts ont douté de la version d'une piste pro-ukrainienne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué qu'on a du mal à croire un docteur d'enfer pro-ukrainien qui pourrait organiser un sabotage d'une telle ampleur. Selon lui, la tâche était trop compliquée. Seuls des services spéciaux officiels bien entraînés seraient capables de faire une telle opération et ils sont peu nombreux dans le monde. Pour décrypter ces dernières évolutions sur l'explosion des gazoducs, l'homme politique français François Asselineau, président du parti politique UPR, est avec nous aujourd'hui. Écoutons-le.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté le projet de résolution russo-chinois qui appelait à une enquête internationale sur les explosions des gazoducs Nord Stream. Et pour le représentant de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, les soupçons sur l'identité des auteurs ne font qu'augmenter. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, je suis obligé de vous faire part un peu de ma surprise et de ma stupéfaction, parce que en définitive, il s'agit d'un sujet d'une très grande gravité. Cette explosion de Nord Stream, c'est quand même quelque chose qui handicape très très lourdement les économies des pays de l'Ouest européen et notamment l'Allemagne et aussi la France, et ceci pour des années et des années. Et en fait, c'est une espèce de point tournant qui risque de handicaper les économies européennes pour des années. Donc normalement, la priorité des priorités devrait être de découvrir qui a fait ça. Il y a un adage romain qui dit « qui prodest » et qui laisse entendre que il faut chercher celui qui y a tout intérêt. Lorsque il y a eu ces explosions, les médias occidentaux, dans les 48 heures qui ont suivi, ont accusé la Russie. Mais moi, j'étais de ceux, peu nombreux d'ailleurs, il faut l'avouer, en France, j'étais de ceux qui disaient que ça me paraissait quand même très très absurde, puisque la Russie n'avait aucun intérêt à faire sauter ses propres installations. Et si même elle voulait faire chanter les pays d'Europe occidentale, comme les critiques de la Russie le disent, elle avait au contraire intérêt aussi à conserver ce moyen de pression plutôt qu'à le détruire. J'ajoute que vous savez que la Russie, en tout cas Gazprom, est propriétaire de 50% de ses installations, mais il y avait 5 autres sociétés, 2 allemandes, une autrichienne, une anglaise, la Shell, et une française, Engie, et qui participent au capital. Donc la France est directement intéressée. 10% de l'investissement avait été réalisé par une entreprise française. Moi, ce que je pense donc, c'est qu'il fallait se tourner vers celui qui avait intérêt. Or, je suis désolé de le dire, mais celui qui a vraiment intérêt à l'explosion de ce gazoduc, ce sont les États-Unis. C'est d'autant plus vrai qu'il y a quand même une longue histoire sur cette question. Madame Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine, dès la fin janvier, je crois que c'était le 24 janvier 2022, elle avait indiqué que si la Russie intervenait en Ukraine, les États-Unis s'arrangeraient pour que Nord Stream ne fonctionne plus. Et le 7 février, quelques jours après, c'était le président des États-Unis en personne, Joe Biden, et qui avait dit à son tour, dans une conférence de presse dont on a d'ailleurs toutes les vues sur Internet, qui avait dit, suite à une rencontre avec le chancelier Scholz, il avait dit que, de toute façon, s'il y avait une invasion de l'Ukraine par la Russie, d'une façon ou d'une autre, Nord Stream n'existerait plus. Et une journaliste allemande avait posé la question un peu naïvement de savoir comment ça pourrait se passer puisque les États-Unis n'étaient pas partie prenante juridiquement au contrat de Nord Stream. Ukraine et le président Biden avait pris un air un peu énigmatique et souriant en disant que ne vous fallait pas s'inquiéter qu'ils y parviendraient. Donc c'était quasiment annoncé par avance que les États-Unis s'ingénieraient pour détruire le gazoduc. Enfin, on peut pas avoir de preuve plus éclatante que celle-ci. J'ajoute également que pour les spécialistes qui connaissent l'histoire, il est avéré que les États-Unis au début des années 2000 s'étaient ingénié d'une part à faire exploser un gazoduc, le gazoduc Siberia en Russie, en ayant fourni un logiciel qui comportait des bugs permettant de faire sauter à distance plusieurs mois après le gazoduc. C'était en Russie que ça se passait et que les États-Unis se sont également rendus coupables d'avoir fait sauter un gazoduc au Nicaragua, à Puerto Sandino, ce qui avait conduit le petit Nicaragua a porté plainte devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui a d'ailleurs remis un très gros dossier sur le sujet. Alors, tout ceci pour dire que il y a déjà des circonstances très convergentes qui tendaient à montrer la responsabilité des États-Unis. Et ceci, alors, a été confirmé par deux choses. D'une part, parce que après avoir montré du doigt la Russie, on a eu un grand silence dans les médias occidentaux pendant plusieurs mois, comme s'il s'agissait d'enterrer l'affaire, comme si cette affaire devait être passée par pertes et profits. Et puis, la révélation sensationnelle est intervenue au mois de février, lorsque Seymour Hersh, qui est l'un des plus grands journalistes connu d'investigation au monde, qui a eu de nombreux prix, notamment le prix Pulitzer, d'un petit peu, si j'ose dire, le prix Nobel du meilleur journaliste. Et il avait eu le prix Pulitzer en 1970, je crois, suite au reportage qu'il avait fait sur les exactions commises par l'armée américaine au Vietnam, dans le village de My Lai, dans la province de Quang Nam, où il y avait eu en mars 1968 environ 500 civils qui avaient été assassinés par les soldats américains, j'allais dire assassinés par pure vengeance, donc c'était un crime de guerre. Donc ceci avait marqué un tournant dans la guerre du Vietnam et avait valu à Seymour Hersh ce prix Pulitzer. Il avait eu également des prix d'autres récompenses, notamment des récompenses d'un prix qui est attribué par des anciens de la CIA et de la NSA, avec qui, à l'évidence, il noue des contacts et il a parfois des informations de première importance, parce qu'il arrive qu'il y ait des fonctionnaires américains qui parfois désapprouvent ce que commettent leurs propres administrations, surtout lorsqu'ils sont passés à la retraite. Seymour Hersh était rendu célèbre aussi pour avoir dénoncé des exactions commises dans la prison de Abu Ghraib en Irak. Donc c'est cette personnalité qui a mis les pieds dans le plat en donnant là une version tout à fait convaincante sur la façon dont les Américains, aidés par l'armée norvégienne, auraient procédé pour faire exploser les deux gazoducs qui se trouvent dans une partie de la mer sous souveraineté danoise. Et donc en deux temps, dans un premier temps profitant d'un exercice de l'OTAN au mois de juin 2022, des plongeurs seraient allés à 80 mètres de profondeur pour aller déposer des bombes autour de ce gazoduc qui est quelque chose de... C'est une installation très, très solide et très lourde. C'est un acier très épais. Il est entouré de 7 à 8 centimètres de béton. Donc c'est quelque chose de très lourd et c'est à 80 mètres de profondeur. Donc il y a une pression considérable. Donc ce sont forcément des spécialistes, ce sont des gens très très entraînés qui peuvent déposer des bombes sur quelque chose de cette nature. Il faut avoir des artificiers, il faut avoir un matériel de nature militaire pour faire ça. C'est pas une simple petite, c'est pas un cocktail Molotov comme on dit. Donc ça veut dire que forcément c'était des professionnels. Et donc Seymour Hersh a indiqué que c'était des plongeurs de l'armée américaine qui auraient déposé ces bombes en juin avec une espèce de capteur radio se déclenchant sur une certaine fréquence. Et c'est ensuite au mois de septembre, que plusieurs mois après, qu'un avion de reconnaissance de l'armée norvégienne aurait jeté à l'endroit convenu une balise qui aurait émis un son particulier déclenchant les explosions. Alors c'est ce système en deux temps qui aurait permis de découpler la présence de navires américains en juin de l'explosion survenant plusieurs mois après et donc qui a priori comme ça ne pouvait pas être imputé à l'armée américaine, mais ces explosions sont sorties comme ça sans qu'on le voie. Et c'est ce système en deux temps qui aurait permis de brouiller les pistes. En tout cas, c'était voilà l'information qu'a donné Seymour Hersh, qui était quand même en tout cas très 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 intéressante et très assez convaincante, d'autant plus que ça allait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Alors, suite à ça, comme vous le savez, il y a eu un grand silence pendant plusieurs semaines, environ pendant un mois. En France et dans les pays occidentaux, il y a eu un narratif fait par les médias tendant à discréditer Seymour Hersh. C'est-à-dire que cet homme, qui est quand même une des célébrités du journalisme mondial, a été dénigré, qu'il était sémite, qu'il était très controversé. Enfin, c'est un procédé habituel de dénigrement pour quelqu'un qui dit quelque chose qui déplaît. Et puis très vite, ça a été enterré. Ça a été, au bout de quelques jours, on n'en a plus parlé. Jusqu'à ce que le chancelier Scholz se rende de nouveau aux États-Unis. Donc ça, je crois que c'était le 7 mars. Donc il y a un peu plus de trois semaines. Et là, à l'issue de cet entretien avec le chancelier Scholz, du président des États-Unis, les Américains ont fait savoir qu'ils avaient une piste extraordinaire. C'était des pêcheurs pro-ukrainiens, dont on ignorait un peu la nationalité. Que c'était des Polonais ou autres qui auraient fait ça. Et alors, c'est une déclaration très importante parce que ça change, c'est un revirement de la part du camp occidental. Pendant plusieurs mois, ils avaient indiqué que c'était la Russie et d'un seul coup, le narratif changeait et les États-Unis ont incriminé des gens qui étaient pro-ukrainiens. Alors c'est déjà un point intéressant, c'est que ça prouve que les Occidentaux ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer à accuser la Russie, que personne n'y croyait. Donc du coup, ne pouvant plus accuser la Russie, ils ont accusé l'Ukraine. Sauf qu'alors, à la surprise générale, le régime de M. Zelensky a protesté en disant qu'il n'était absolument pour rien, ce qui montre au passage qu'il y a des tensions entre Washington et Kiev et que l'Ukraine n'a pas envie d'être montrée comme responsable d'une affaire qui ne la concerne pas. Donc, à partir de ce moment-là, de nouveau, on n'en a plus entendu parler jusqu'à cette information concernant ce sur quoi vous m'interrogez, qui est la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU par la Russie et la Chine, qui demandent qu'une enquête indépendante soit diligentée. Ça me paraît d'autant plus nécessaire. Tout d'abord, c'est un sujet d'une très grande importance, comme je le disais tout à l'heure. Mais en plus, il faut savoir que la Russie est quand même concernée au premier chef, parce qu'elle possède 50% des installations, parce que ça concerne ses relations d'approvisionnement de gaz à toute l'Europe occidentale. La Russie, malgré ses demandes, a été écartée de l'enquête. Non seulement elle n'a pas été conviée à participer à l'enquête, mais il lui a même été dénié le droit d'avoir des copies des documents émanant des enquêteurs, et notamment des découvertes qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a mis de côté la Russie de toute information sur ce qui se passait. C'est quand même incroyable. Du point de vue du droit, de la logique, c'est ahurissant. Ça veut dire que d'emblée, on a considéré que c'était la Russie qui était coupable. C'est incroyable. Dans aucun autre endroit du monde, on imaginerait quelque chose de pareil pour une affaire de cette nature. Alors, moi, je trouve que c'est bien que la Russie et la Chine aient fait cette demande au Conseil de sécurité, mais je suis très triste et même assez choqué de voir que le Royaume-Uni et la France, qui sont tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ces deux pays sont également parties prenantes, puisque je le disais en préambule, la Shell pour le Royaume-Uni et Engie pour la France, ont perdu 10% ont perdu leur participation dans cette installation. Normalement, ils devraient acclamer eux aussi qu'il y ait une enquête indépendante. Or, le vote a eu lieu, vous l'avez rappelé. La proposition russo-chinoise a été écartée, mais d'une façon très hypocrite, puisque, en fait, il y a eu, trois voix qui ont voté pour, mais il y a eu surtout 9 voix qui se sont abstenues. Enfin, le reste, c'est 12 qui se sont abstenues. De telle sorte que ça n'a pas pu être adopté parce qu'il fallait avoir 9 voix pour que ça soit adopté.
Oui, tout à fait.
Donc, la France, notamment, le Royaume-Uni, les États-Unis aussi, se sont abstenus puisqu'ils n'ont pas opposé leur veto, mais également des pays un peu inattendus comme la Suisse par exemple s'est également abstenu. Donc s'abstenir, en fait, ça revenait de façon très hypocrite à refuser que cette enquête internationale indépendante ait lieu, tout en n'apparaissant pas comme contre le principe. Hein. Donc c'est très hypocrite, parce que normalement sur un sujet comme ça, on est pour ou on est contre, on ne s'abstient pas. Voilà. Et donc, en fait, c'est le le représentant des États-Unis au Conseil de sécurité qui a expliqué d'une façon qui ne trompe personne en fait que c'était, il n'était pas favorable parce que pour que la Russie ne vienne pas perturber l'enquête. Donc voilà, ça revient encore une fois à considérer que la Russie est par avance coupable. Voilà. Alors moi je suis triste. Voilà, je suis triste parce que je trouve que c'est totalement anormal. Tout est anormal dans cette affaire et le pire c'est que même la France ne veut pas avoir une enquête indépendante. C'est quand même incroyable. Et je suis de l'avis que vous formulez au début, tout ceci revient d'une certaine façon à rendre l'affaire encore plus suspecte. Voilà, quand on n'a rien à se reprocher, on ne cache rien.
Mmh, si vous me permettez, je vais passer donc à la question suivante. On a le représentant adjoint russe à l'ONU, qui s'appelle Dmitri Polyansky, qui a annoncé que ce sujet serait remis à l'ordre du jour aux Nations Unies et que grâce aux efforts de la Chine, la vérité sur cette affaire sera établie. Et est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui? Et selon vous, comment la Chine peut-elle aider la Russie à obtenir la vérité dans l'explosion des gazoducs?
Ce que je pense, je ne suis pas un familier des arcanes de l'ONU. Il y a peut-être des artifices de procédure qui permettent de reposer une question différemment, sous un autre angle, à un autre moment, de demander une nouvelle réunion du Conseil de sécurité. Je rappelle que la Chine est également, comme la Russie, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Je pense qu'il y a aussi une autre possibilité, peut-être, qui est de porter cette affaire devant l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque à l'Assemblée générale, où là, tous les États sont représentés, il y en a environ 195, et vous savez qu'il n'y a pas de droit de veto, et donc il peut y avoir un vote qui soit présenté à l'Assemblée générale, qui pourrait émettre, par exemple, une demande ou une hypothèse. Vous savez que, dans la charte des Nations Unies, l'Assemblée générale a un rôle quand même surtout consultatif, le rôle décisionnel, c'est le Conseil de sécurité. Donc passer par l'Assemblée générale aurait un inconvénient, c'est que ça ne serait qu'un vœu pieux des États membres des Nations Unies. Ça n'aurait pas forcément une conséquence concrète, mais néanmoins ça aurait un avantage, c'est que ça permettrait à la Russie et à la Chine de compter quels sont les pays qui sont d'accord avec eux pour demander une enquête indépendante. Et je pense qu'un grand nombre des pays d'Afrique ou des pays du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Amérique latine se joindraient à cette demande. On pourrait avoir une majorité, à mon avis, qui serait assez comparable à la majorité des États qui condamnent la glorification du nazisme dans certains pays, notamment des pays baltes. C'est une résolution russe, comme vous le savez, que la Russie présente chaque année à l'ONU et qui est toujours votée par une grande majorité des États. Donc je pense que du point de vue, j'allais dire, de la communication mondiale, ce serait un revers pour les États-Unis et le monde occidental si on constatait qu'une grande majorité des États membres de l'ONU demande à son tour une enquête indépendante. Voilà. Alors, je pense qu'il y a encore d'autres moyens probablement de le faire. C'est que il me semble que la Russie et la Chine, mais certainement la Russie, devraient pouvoir à terme, faire, comme je le rappelais tout à l'heure, je signalais le cas du Nicaragua qui avait saisi la Cour internationale de justice de La Haye, dont je vous rappelle que c'est l'organe suprême en droit international qui est rattaché au système onusien. Et donc la Russie pourrait aussi saisir la Cour internationale de justice en demandant qu'elle établisse les faits et qu'elle tranche sur ce débat. Ce qui me paraît certain, c'est que les Américains, si c'est bien eux les responsables, mais moi, je vous ai dit d'emblée que tout porte à le croire, à la fois la logique, la stratégie, l'examen des forces, la nature même des faits commis, l'hypothèse lancée par Washington que selon laquelle ce seraient des pêcheurs pro-ukrainiens qui auraient fait ça ne tient pas la route un instant, parce que on ne connaît pas des pêcheurs qui sont des pêcheurs à la ligne ou des pêcheurs pour nourrir la population qui ramènent des poissons. On ne les imagine pas avec un matériel permettant de descendre à 80 mètres de profondeur avec des explosifs capables de faire sauter des gazoducs géants. Donc, le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas de solution à part les États-Unis. Voilà, c'est que le monde occidental a sorti l'hypothèse de ces pêcheurs pro-ukrainiens, ce qui a mis en colère l'Ukraine, mais qui n'a pas convaincu, qui n'a convaincu personne, aucun spécialiste. Donc, en fait, encore une fois, les seuls qui ont pu commettre ça, c'est une grande puissance ayant ayant une armée, ayant des moyens, des artificiers, des plongeurs, des sous-marins, ayant des explosifs très puissants. Donc c'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine de pays au monde maximum qui sont capables de faire ça. Et on sait d'ores et déjà que ce n'est que c'est très probablement pas la Russie pour les raisons que j'expliquais, ni la Chine, ni la France, ni l'Allemagne, ni probablement l'Angleterre. Je ne pense pas que l'Angleterre ait saboté ses propres. Donc en fait, le champ des hypothèses se réduit beaucoup en fait. Hein. C'est ça le problème. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est un sujet qui va rebondir. Et si la France était la France, c'est-à-dire si c'était la France comme elle était gérée du temps du général de Gaulle, un pays souverain et indépendant, la France devrait demander des éclaircissements aux États-Unis, notamment à partir des révélations du journaliste Seymour Hersh, et devrait éventuellement demander non seulement des explications, mais ensuite des réparations, parce qu'il faudrait demander des réparations financières pour ce qui a été...
D'ailleurs, justement, si vous me permettez, c'est le thème de ma prochaine question. Le porte-parole du Kremlin, donc Dmitri Peskov, je précise pour nos auditeurs qui nous écoutent, il a déclaré récemment que la Russie pourrait demander une indemnisation pour le sabotage des gazoducs. Et je vous interpelle donc sur cette question. Selon vous, quelles sont les chances de l'aboutissement d'une telle éventualité, sachant qu'il faut quand même prendre en compte le contexte actuel avec les sanctions, l'exclusion de la Russie du système financier international SWIFT. Et donc, selon vous, quelle est l'éventualité, est-ce que cela a des chances d'aboutir?
Alors, la réponse est un peu nuancée à mon avis. La probabilité que ça ait des chances d'aboutir pour l'instant est égal à peu près à zéro, puisque ça ne pourrait aboutir qu'à partir du moment où les Américains auraient reconnu leur responsabilité. Parce que commencer à faire des réparations, à donner des réparations financières, c'est évidemment reconnaître sa responsabilité. Je vous rappelle que nous, on avait connu un épisode qui était peu glorieux pour la France dans les années 1980.
En 1985, justement, on avait eu une attaque sur un bateau de Greenpeace au large de Nouvelle-Zélande.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'était le Rainbow Warrior qui était dans le port d'Auckland et qui avait été dynamité par des sous-mariniers français pour les services de renseignement français. Et il y avait eu malencontreusement un mort qui était à bord de ce navire. Donc, c'était une petite péripétie par rapport à Nord Stream. C'était jamais qu'un navire sans non stratégique. Ça n'avait rien à voir avec Nord Stream. Mais il y avait eu un mort d'homme, c'est évidemment, ça avait rendu l'affaire tragique, et il était apparu assez rapidement que c'était des services secrets français qui avaient fait ça. Donc ça avait mis des plusieurs mois, et finalement la France avait fini, sous la pression, les pressions diplomatiques de la Nouvelle-Zélande et de ses alliés, la France avait été contrainte de reconnaître sa responsabilité, et ensuite de faire des versements, notamment aussi parce que les auteurs, les artificiers qui avaient été les auteurs de ça, avaient été arrêtés en Nouvelle-Zélande, était tenu prisonnier un peu. Le mot n'était pas dit, mais c'était un peu des otages. Donc il y avait, la Nouvelle-Zélande avait des moyens de pression. Là, vis-à-vis des États-Unis, je suis convaincu que les États-Unis ne sont pas prêts de reconnaître leurs responsabilités. Ils continuent à dire qu'ils n'y sont pour rien. Cela étant, vous savez, l'histoire change sans arrêt, et je vous rappelle que dans moins d'un an, dans 10 mois, on va avoir les premières primaires aux États-Unis qui vont commencer sur la côte Est à partir de février 2024 pour l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2024. Alors, si Joe Biden est réélu en novembre 2024 pour un deuxième terme, deuxième mandat, je pense que ça ne résoudra pas la question. Mais si d'aventure c'était soit Donald Trump qui était retenu comme candidat des Républicains puis élu en novembre 2024, ou si c'était son dauphin qui est également son concurrent, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, oui. qui est candidat à la candidature des Républicains. Si c'est lui qui a l'investiture républicaine et si c'est lui qui est élu, on lui prête quand même d'avoir une volonté d'arrêter cette implication des États-Unis en Ukraine. Vous savez que l'opinion publique américaine évolue beaucoup, comme d'ailleurs les opinions publiques occidentales et françaises sur cette question. Le soutien à l'Ukraine, qui a été imposé comme une vérité d'État quasiment par tous les médias dans les pays occidentaux, ce soutien s'est effrité. Et vous avez en France beaucoup de Français qui sont hostiles à notre implication en Ukraine, et c'est le cas également, notamment dans l'électorat des Républicains américains. Donc si d'aventure il y avait un changement de présidence, donc en le 20 janvier 2025, suite aux élections de novembre 2024, peut-être à ce moment-là, un nouveau président des États-Unis, et si le conflit continue à cette époque, il souhaitera régler le conflit en Ukraine, et dans le cadre d'un règlement général. Un règlement général qui toucherait à la fois les relations entre la Russie et l'Ukraine, mais qui toucherait aussi les relations entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne, et notamment sur cette affaire de gazoduc. Donc c'est pour ça que je pense que la Russie a intérêt, mais malheureusement elle devrait être, la France devrait faire pareil que la Russie, a intérêt à ce que le dossier ne soit pas enterré, mais qu'il continue à être vivace et qu'il soit un petit peu, comme on dit en français, comme un caillou dans la chaussure, c'est-à-dire qu'il ne cesse que d'être présent et qu'on n'abandonne pas cette affaire et que la France souhaite avoir le fin mot de cette histoire et éventuellement des compensations. C'est pour ça que je pense que la stratégie russe est sur cette question me semble la bonne. Il ne faut pas laisser tomber.
Alors, je vais poursuivre. Donc, outre l'aspect économique, on a aussi l'aspect environnemental. Et le sabotage du gazoduc a porté aussi un coup aux écosystèmes de la mer Baltique. On a un groupe de scientifiques dirigé par Hans Andersen de l'université d'Aarhus au Danemark, qui a démontré que les marsouins seraient les espèces qui pourraient le plus souffrir de la destruction de ces gazoducs. Et, en guise de transition, c'est également le cas des populations civiles en Ukraine avec les munitions à uranium appauvri. Et je vous rappelle que la Grande-Bretagne a annoncé par l'intermédiaire de sa vice-ministre de la Défense qu'elle allait livrer à Kiev ce type d'armes. Et malheureusement, c'est un triste hasard du calendrier, cette annonce est intervenue presque 24 ans après le début des bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, où, je rappelle pour nos auditeurs, alors évidemment, ces obus ont été utilisés en Irak, mais également en Yougoslavie, et ça a causé des cancers parmi la population. Pour rappel, le taux de cancer, un des taux de cancer les plus élevés en Europe aujourd'hui, est en Serbie. Et cela est une conséquence directe des bombardements qui ont eu lieu à cette époque-là. Et donc, si vous voulez, ma question que je vous pose, pourquoi Londres joue un jeu dangereux sur cette question ?
Bon, pour répondre à ce que vous avez dit, il y a plusieurs considérations que vous avez évoquées. Oui, cette affaire de gazoduc est une pollution majeure de la mer Baltique. Oui, les armes à uranium appauvri peuvent provoquer des maladies, des congénitales, des cancers, des malformations à la naissance, des horreurs en fait pendant des décennies. Donc vous avez raison. On peut ajouter d'ailleurs au passage que le fait que l'Occident, les pays d'Europe occidentale ne puissent plus s'approvisionner avec le gaz russe force les pays occidentaux à acheter du gaz de schiste américain à un prix tout à fait extraordinaire, d'ailleurs très 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 élevé. Mais de surcroît, on sait que le gaz de schiste qui est obtenu par des procédés à fragmentation sont extrêmement polluants pour le monde. Ça prouve donc au passage qu'il y a là, comme d'habitude, un double discours, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui nous incitent constamment à accepter des contraintes pour préserver l'environnement, mais au même moment, on a des décideurs qui, quand ils le veulent, font absolument n'importe quoi en matière d'environnement. Donc ça, c'est ce deux poids deux mesures. Maintenant, pour répondre à votre question proprement dite, je vous rappellerai quelque chose s'agissant du Royaume-Uni. C'est que vous savez peut-être que vos auditeurs le savent que moi, je suis un partisan du Frexit, c'est-à-dire qu'il faut que la France, selon moi, sorte de l'Union européenne et sorte de l'OTAN, parce que ce sont ces instruments internationaux qui ont ligoté la France pieds et poings liés, en fait, qui ont fait de nous un vassal des États-Unis d'Amérique, et que les Français souhaiteraient, je pense, reprendre ce que la France était du temps de De Gaulle, comme je le citais tout à l'heure, c'est-à-dire un pays souverain, indépendant, ayant sa propre politique. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a des gens qui parlent du Brexit au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, c'est exact. Quoique, il y a encore beaucoup de lois et règlements qui ont été édictés par le Royaume-Uni et que les dirigeants britanniques n'ont toujours pas supprimé, puisque les dirigeants, il y a un gouffre entre le monde des élites britanniques et le peuple britannique. Donc il y a des dirigeants britanniques tardent à supprimer toutes les réglementations qui avaient été adoptées du temps de l'appartenance à l'Union européenne, mais surtout le Royaume-Uni est resté dans l'OTAN. Donc ça n'est pas un Brexit complet, c'est un Brexit partiel seulement sur l'Union européenne et qui ne concerne pas l'OTAN. Et même au contraire, on peut dire que le Royaume-Uni est d'une des pierres essentielles de l'OTAN. Vous savez que beaucoup considèrent que l'affaire après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux alentours du mois de mars 2022, quelques semaines après le début de l'invasion, on avait le sentiment qu'on pouvait parvenir à un accord de paix ou du moins d'armistice avec des dirigeants ukrainiens qui étaient disposés à des négociations.
Tout à fait.
Et vous savez que c'est à partir donc du voyage de Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, qui s'est rendu sur place donc en avril-mai 2022, que d'un seul coup ces négociations ont été interrompues sur pression otanienne. L'OTAN et les États-Unis, s'exprimant par la voix de Boris Johnson, ont imposé quasiment aux dirigeants de Kiev de poursuivre le combat. Voilà. Donc, on a avec le Royaume-Uni un pays qui est un peu le fer de lance des intérêts américains en Europe. Je vous rappelle également que Boris Johnson a fait savoir son intérêt à succéder au Norvégien Jens Stoltenberg, qui est à la tête de l'OTAN, au secrétaire général de l'OTAN actuel. Norvège, dont je rappelle d'ailleurs au passage les liens avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis, puisque d'après Seymour Hersh, comme je le disais tout à l'heure, c'est la Norvège avec les forces américaines qui auraient organisé la destruction du gazoduc. Donc, je pense que ce dont vous faites état, se relève de cette espèce de ce qu'on appelle en français le jusqu'au boutisme, une espèce de volonté de sans arrêt monter les enchères face à la Russie. Personnellement, je trouve ça vraiment très inquiétant parce que il faut quand même, les peuples ne sont pas d'accord. Les peuples d'Europe ne sont pas d'accord. Beaucoup de Français sont favorables à l'Ukraine parce qu'ils entendent toujours la version pro-ukrainienne à la télévision.
Tout à fait.
Mais il y a aussi beaucoup de Français qui se renseignent ailleurs, notamment sur Internet, notamment sur ma chaîne de télévision UPR TV, où on a des centaines de milliers, parfois des millions de vues de gens qui viennent se renseigner pour avoir un autre son de cloche, comme on dit. Et donc le soutien des Français à ce qui se passe en Ukraine et au soutien à l'Ukraine est en fait beaucoup plus faible que ce que les médias veulent faire croire. Et donc la France là-dedans est entre deux feux, sachant que Macron, le président français, est quelqu'un qui n'a pas son libre arbitre, qui est également sous pression. J'espère en tout cas que les Anglais n'iront pas jusqu'à aller à cette livraison d'armes à uranium appauvri, parce que ça marquerait d'une part effectivement un risque environnemental et humain absolument épouvantable, mais ça marquerait aussi une marche supplémentaire vers une déflagration mondiale.
Par contre, je voudrais attirer votre attention sur une condamnation qu'a fait l'ex-premier ministre italien Giuseppe Conte. Lui, il a fustigé le silence des élus italiens et européens sur la livraison de ses armes à Kiev. Et, dans le même temps, en Italie, on a l'actuelle première ministre Giorgia Meloni qui avait, dans un discours très ferme au Parlement italien, déclaré que les conditions pour lancer des négociations n'étaient pas réunies. Et, si vous voulez, on a un peu l'impression que les Européens ne veulent pas de la paix en Ukraine. Et, pour moi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Je la nuancerai en disant que ce sont les dirigeants qui ne sont pas d'accord. Parce que les dirigeants ne sont, les pays d'Europe ne s'appartiennent plus. La vérité est là, c'est que ils ont désormais un pistolet sur la tempe. Madame Giorgia Meloni, qui nous avait été présentée comme une femme d'extrême droite, qui était contre l'Europe,
et ça,
Bon, en fait, elle est devenue évidemment un soutien, un suppôt de l'Ukraine et de la géopolitique américaine. On voit d'ailleurs la même chose en France, puisque en France, le parti politique qui se développe très bien en ce moment, mais qui est totalement interdit des médias, l'UPR, nous sommes interdits des médias, mais à part nous qui demandons l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, qui demandons l'arrêt des sanctions contre la Russie, et qui demandons ultérieurement la sortie de la France de l'OTAN et de l'Union européenne, moi je suis totalement interdit d'antenne, mais je suis le seul à dire ça quasiment, puisque tous les partis politiques en France, y compris la gauche de M. Mélenchon, mais y compris aussi l'extrême droite, enfin ce qui était appelé l'extrême droite de Madame Le Pen, maintenant se sont tous rangés derrière l'Ukraine. On l'a vu avec la déclaration du nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui, à la grande fureur d'ailleurs de beaucoup de ses électeurs, a décidé qu'il fallait se ranger derrière l'Ukraine, que l'ORN avait été trop naïf vis-à-vis de Vladimir Poutine, etc. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants en France ont intégré dans leur raisonnement le fait qu'ils doivent obéir à Washington. C'est toujours ça. Et s'ils ne le font pas, ils sont interdits d'antenne, donc ils végètent, ils ne peuvent pas se développer. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est pareil pour Madame Meloni. Les Américains ont des moyens de pression, notamment par l'intermédiaire aussi de l'Allemagne, de la participation à l'euro. Nous savons les pays du sud de l'Europe ont besoin du soutien de la Banque Centrale Européenne pour éviter une hausse des taux, pour se maintenir dans l'euro, qui est une monnaie qui, de toute façon, a vocation à exploser. En tout cas, ce sont mes analyses. Il y a des prêts, le taux d'endettement des pays du Sud est très important. Il y a des pressions en termes de chantage financier, en termes de chantage militaire, en termes de chantage commercial, en termes de chantage sur les lois extraterritoriales. Donc, on a des dirigeants qui ont accepté, pas seulement en France, de se plier au pouvoir de Washington, et nous sommes devenus des pays colonisés qui ne disent pas leur nom, mais c'est ça.
Mais quelque part, l'exemple de Giuseppe Conte qui n'est plus au pouvoir, est-ce que ça donne pas, selon vous, l'impression que une fois qu'on est sorti des arcanes du pouvoir, il est beaucoup plus facile d'avoir son opinion sur un sujet donné, comme par exemple le dossier ukrainien?
Ben écoutez, vous avez mille fois raison, je suis absolument d'accord avec vous. On le voit en Italie, mais on ne le voit pas seulement en Italie. Je voyais récemment, il y a Dominique de Villepin, que je connais personnellement, qui était ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Vous vous rappelez qu'il était intervenu au moment de la guerre en Irak, il était intervenu à l'ONU pour s'y opposer, enfin dire que la France, laisser entendre que la France ne voterait pas et qu'elle pourrait mettre son veto à ce déclenchement de la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vote au Conseil de sécurité, les Américains sont intervenus en Irak illégalement puisqu'il n'y a pas eu d'accord au Conseil de sécurité. C'est la dernière fois, c'était en 2003, c'était il y a 20 ans, c'est la dernière fois que la France a été à peu près conforme à ce qu'elle avait été autrefois, c'est-à-dire un pays souverain et indépendant qui a sa propre géopolitique. Et j'ai vu il y a quelques jours que M. Dominique de Villepin a donné une interview dans je ne sais plus quel média où il revenait sur cet épisode et où il expliquait qu'il avait eu un entretien avec... avec Colin Powell, le secrétaire d'État américain, et que celui-ci, il en était presque venu aux mains, qu'il avait pratiquement failli lui sauter la gorge. Enfin, il a commencé à révéler des choses. T'sais, on a un autre exemple dans ce sens, ce sont les révélations que l'ancien président Mitterrand a faites au journaliste Georges-Marc Benamou dans un livre qui est sorti en 1987 en France, 97 en France, qui s'appelait Le dernier Mitterrand, et quelques semaines avant de mourir, Mitterrand a fait une espèce de testament, si vous voulez, politique, et il a eu ces phrases terribles. Il a dit « La France ne le sait pas, mais les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre ». Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort ». Ça veut dire que le président Mitterrand, qui a été pendant 14 ans président de la République, dès qu'il a quitté ses fonctions, et quelques semaines avant de mourir, puisqu'il était atteint d'un cancer, il a soulagé sa conscience en disant ça, en disant que les Français ne le savent pas, mais que la France est en guerre, en fait, avec les États-Unis qui veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Voilà. Normalement, nous serions une démocratie, Moi, ça fait ces révélations de Mitterrand qui sont sorties, qui n'ont jamais été contestées. Hein. Ça devrait faire l'objet d'un débat public. Moi, j'en ai parlé dans des conférences, j'en ai parlé dans des vidéos, donc ça, c'est ce qui me vaut une certaine renommée sur Internet. Mais c'est un débat qui est totalement interdit dans les grands médias français. Et dans les grands médias français, on veut continuer à nous faire croire que les Américains sont nos alliés, qu'ils nous protègent, etc. Alors qu'en réalité, ils nous dominent, ils nous imposent des politiques qui sont en train de progressivement de nous détruire, pas seulement d'ailleurs en matière économique, mais aussi en matière sociétale, en nous imposant la woke culture, la LGBT culture, toutes choses qui viennent des États-Unis et qui nous sont imposées, que cela nous plaise ou pas. Ça s'appelle un pays dominé colonialement, en fait.
Chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause. Spoutnik Afrique revient très vite avec notre invité du jour, François Asselineau. À tout de suite sur Maliba FM. De retour sur Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact. Je salue les auditeurs et les auditrices qui viennent de nous rejoindre. Notre invité du jour, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique UPR et ancien candidat à la présidentielle française, est toujours parmi nous. Après les gazoducs Nord Stream et les munitions à l'uranium appauvri, revenons à la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping.
On a eu récemment la visite de Xi Jinping à Moscou. C'était son premier déplacement à l'étranger après sa réélection. Et donc, il a rencontré Vladimir Poutine. Et le président russe a déclaré que le plan de paix proposé par Pékin était conforme aux approches de la Russie et qu'elles peuvent, donc ce plan peut servir de base à un règlement pacifique lorsque l'Occident et Kiev seront prêts. Et si vous voulez, ça donne quelque part un message d'espoir. Est-ce que la résolution de ce conflit passera par la Chine, selon vous ?
Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce que vous dites. Tous ces sujets sont d'une immense importance. La première chose à dire, c'est que on est en train d'assister à l'avènement de la République populaire de Chine comme un des plus grands États du monde du point de vue politique et géopolitique et militaire. Ça a toujours été un immense État. Hein. Au début à l'époque du Christ, il y avait à peu près 20% de la population mondiale qui vivait dans le territoire de l'actuelle Chine. On est toujours à peu près dans les mêmes proportions. Hein. Donc c'est quelque chose de très... Il se trouve que la Chine, pour des raisons qui lui sont propres, un certain immobilisme du temps des empires, des différentes dynasties, a raté le coche du développement de l'Occident à partir du 16e, 17e siècle, que l'Occident est venu coloniser la Chine au 19e siècle, puis l'a dépecé. Quand je dis l'Occident, c'est les Franco-Anglais, suivis aussi par les Américains, les Japonais, qui ont découpé ce pays en morceaux, que, comme vous le savez, la Chine s'est libérée et a adopté la théorie marxiste-léniniste, que ça aboutit à un désastre également, parce que tout ceci menait finalement à une économie qui ne fonctionnait pas. Il y a eu des erreurs énormes qui ont été commises par Mao Tse-tung, qui était à la fois le libérateur, mais qui avait commis de grosses erreurs. Bref, la Chine, à partir des années 80-90, grâce à Deng Xiaoping, a changé de voie, a adopté une voie beaucoup plus pragmatique, et en laissant la liberté individuelle d'entreprise, etc. Et tout ceci mène à quoi ? Au fait que la Chine est en train de devenir, d'ores et déjà bénéficiant notamment de la libre circulation des mouvements de capitaux décidés par l'OCDE, et également reprise par les traités européens, suivie par le Japon, les États-Unis, etc. Donc la Chine est devenue petit à petit l'atelier du monde, puis l'industrie du monde, grâce aux investissements internationaux. Et désormais, c'est un pays dont l'économie réelle est la plus puissante du monde. Ils ont dépassé les États-Unis, puisque certes le PIB américain est toujours officiellement le premier du monde, mais dans le PIB, on mélange des choux et des carottes. Et lorsque vous avez des institutions financières comme Lehman Brothers, par exemple, qui s'effondrent en 48 heures, eh ben il reste rien que des bureaux vides. Et en fait, c'est un petit peu comme une espèce, si vous voulez, des œufs montés en neige et qui se désagréable. La Chine, elle, ce qui fonde le produit intérieur brut de la Chine, ce sont des choses très, très réelles. L'industrie automobile, l'industrie lourde, les aciéries, l'industrie navale. C'est du solide. Et puis aussi une industrie militaire. Dans tout ce contexte, la Chine, maintenant, accède, et c'est tout à fait nouveau depuis 20 ans, elle accède au rang de toute première puissance mondiale. J'ajoute que vous le savez, que c'est un pays, c'est le pays le plus peuplé du monde, même s'il est en train d'être rattrapé par l'Inde, avec à peu près 1,5 milliard d'habitants, et donc c'est un colosse. Et il faut les relations entre la Russie et la Chine, c'est un rapport de 1 à 10. Il y a 10 fois plus d'habitants en Chine qu'il y en a en Russie, pour fixer en gros les rapports. Donc on a affaire à deux pays qui sont côte à côte. L'un est assez vide d'hommes et plein de richesses minérales, notamment énergétiques. La Chine est pleine d'hommes, mais elle a aussi des richesses stratégiques, notamment des minéraux, des terres rares, des choses comme ça. Il est un intérêt géopolitique qui est de plus en plus évident que les deux pays ont intérêt à s'entendre. D'abord parce que la Chine a besoin des hydrocarbures, des produits énergétiques dont dispose la Russie. D'autre part parce que les deux pays sont en fait les deux seuls actuellement à avoir la capacité militaire et intellectuelle, si je veux dire, et politique, à s'opposer à l'hégémonie mondiale des États-Unis, que les États-Unis appellent le nouvel ordre mondial. Ces deux pays, de ce point de vue-là, sont dans le collimateur de Washington. J'ai eu l'occasion d'expliquer qu'il y a des projets de dépeçage, de démembrement des deux pays, comme d'ailleurs il y en a eu au Moyen-Orient par les États-Unis, avec le projet du nouveau Moyen-Orient. Vous savez que les États-Unis ont lancé des projets, ils ont eu la transparence, comme on dit, de mettre ça sur la place publique, mais de démanteler par exemple l'Arabie Saoudite en 2-3 États, de démanteler la Turquie en plusieurs États, en créant un Kurdistan. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs, au vu de ces cartes qui circulent, qui ont été publiées dans le journal des vétérans américains dans la foulée des attentats du 11 septembre, il ne faut pas trop s'étonner de voir les actuels dirigeants turcs et saoudiens, le président Erdogan et le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui ont pris leur distance d'avec Washington parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils risquaient de passer aussi à ce grand démembrement. J'ai développé des idées pour montrer que ce que l'on appelle l'Europe des régions, enfin, dans l'Union européenne, en fait, c'est également la même idée. L'idée de démembrer les grands États-nations comme le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, avec ces projets de régions de plus en plus autonomes. Et la même chose existe avec la Russie et existe avec la Chine. Avec la Russie, il y a eu par exemple une réunion d'une organisation qui s'appelle l'Union des Nations Libres de Russie, qui s'est tenue le 24 février 2022 à Prague, qui a eu droit d'ailleurs aux honneurs du Kiev Post, c'est-à-dire du plus important journal ukrainien de Kiev, et où on voyait des carte qui montrait comment la Russie devait être découpée en morceaux, et c'était cette fédération, enfin cette association de l'Union des Nations Libres de Russie, c'est pas uniquement des copains au bistrot en train de boire une vodka, ce sont des gens sérieux, puisque il y a assisté à cette réunion l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Porochenko ukrainien, également des officiels américains, notamment le responsable au Département d'État du suivi de la CSCE, la coopération sur la sécurité et la coopération en Europe. Et d'ailleurs, cette association est subventionnée par la National Endowment for Democracy, qui est un des fonds des services de renseignement américains, c'est en tout cas de la NSA, qui est un voisin de la CIA. Il y a également des associations bien connues, comme l'Open Society de George Soros, qui finance tout ça. Et j'ajoute d'ailleurs que Mme Victoria Nuland, dont je parlais au début de notre entretien, qui avait déjà déclaré que Nord Stream arrêterait de fonctionner si la Russie envahissait l'Ukraine. Madame Victoria Nuland a dit elle-même il y a quelques mois que, à son avis, la Russie était un pays trop grand et donc qu'il fallait la découper en morceaux. Voilà, parce que évidemment c'est la grande stratégie qui a été élaborée depuis les Grecs anciens ou les Romains anciens. Vous savez, en latin on disait dividare ut regnare, c'est-à-dire diviser pour régner. Il est bien évident que si la Russie était découpée en morceaux, ce serait beaucoup plus facile pour s'approprier les réserves en hydrocarbures, etc. Soit dit en passant, cette stratégie est d'ailleurs celle qui est utilisée au Soudan avec le démembrement avec le Sud-Soudan, en Libye, en Syrie aujourd'hui, à notre époque, en Syrie. Vous savez qu'il y a tout le quart nord-est de la Syrie qui est occupé par les Américains et qui se servent carrément, qui volent tous les jours des milliers de tonnes de pétrole syrien sans autre forme de procès. Donc dès qu'il s'agit d'affaiblir un État-nation, c'est les États-Unis privilégient ce genre d'opération, ça veut dire des conflits conflits qui peuvent durer des années, des conflits de basse intensité, comme on dit, avec l'appareil étatique qui s'est affaibli. Et puis la même chose aussi pour la Chine, et puisque il y a aussi des cartes qui circulent avec un Tibet indépendant, un Xinjiang ou le pays des Ouïghours indépendant, une Mongolie indépendante, également bien sûr Taïwan, et tout ceci s'accompagne de gestes politiques très forts, avec la visite par exemple de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants à Taïwan l'an dernier, et puis maintenant c'est son successeur, M. McCarthy, qui envisage de se rendre à Taïwan. Donc de ce point de vue-là aussi, la Chine a intérêt à se rapprocher de la Russie pour faire front commun face à un pays dont l'objectif clair, même avoué, énoncé, il suffit de chercher un petit peu, est de les démanteler. Donc je pense qu'il y a ceci. Alors ça pose un problème aux États-Unis, parce que c'est assez curieux d'ailleurs, j'avoue, je ne comprends pas très bien la stratégie américaine, parce que on peut pas faire tout à la fois. Voilà. En français, on a un proverbe qui dit c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois essayer de prendre l'Ukraine, de rattacher l'Ukraine à l'OTAN, donc de menacer directement les intérêts les plus fondamentaux de la Russie. On ne peut pas à la fois défaire ça, présenter par ailleurs des projets de démembrement de la Russie, et en même temps faire la même chose à la Chine. Moi, ça me paraît quand même un peu bizarre. Donc, on a eu pendant plusieurs mois en France, notamment dans les médias français, on a eu tout un discours dans les médias qui consistait à dire que Xi Jinping prenait ses distances avec Poutine, que la Russie ne voulait pas se mêler à ça, que si et que ça, qu'on considérait que Poutine était fou. On a eu tout ce genre de discours. C'était un petit peu ce qu'on appelle un vœu pieux en français, comme si des dirigeants occidentaux espéraient bien que la Chine ne s'allierait pas à la Russie. Voilà. Et puis, force est de constater que ces espoirs ont été douchés, et ces espoirs étaient des espoirs fous. On ne peut pas quand même imaginer que la Chine allait réagir différemment lorsque les dirigeants chinois observent qu'ils risquent d'être démembrés comme les Russes s'ils acceptent les narratifs occidentaux. Donc, du coup, il y a ce rapprochement, et ça fait très peur, je pense, aux Américains et aux Européens et aux Français. D'où ce plan de paix qui permet à la Chine de se positionner comme un des grands, un des pays avec lequel il faut compter dans le monde, comme une des principales puissances diplomatiques et géopolitiques du monde. Je vous rappelle que la Chine a réussi quelque chose d'extraordinaire il y a quelques semaines. C'est elle qui a réussi à se faire réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite est la principale puissance musulmane sunnite et l'Iran la principale puissance musulmane chiite. Donc la Chine a réussi à se faire réconcilier ces deux pays qui avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2016, et il n'est pas anodin de souligner que ces deux pays était jadis sous influence américaine. Jusqu'en 1979, l'Iran du Shah d'Iran était quasiment un vassal de Washington, et jusque dans les années 2010, l'Arabie Saoudite était un vassal de Washington. Ça l'est d'ailleurs toujours un peu, puisqu'il y a des soldats américains qui sont en Arabie Saoudite. Mais il est très intéressant de constater que ces deux pays, qui étaient jadis parmi les principaux alliés de Washington dans la région, s'en sont détachés. L'Iran s'en est détaché en 1979. L'Arabie Saoudite est en train de s'en détacher, de se rapprocher des BRICS, de se rapprocher de la Russie. L'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Ben Salman a accueilli pour une visite d'État fastueuse le président chinois il y a quelques mois. Donc la Chine apparaît comme un joueur nouveau au Moyen-Orient et peut apparaître comme un joueur nouveau dans un conflit qui concerne des Occidentaux en définitive, parce que nous sommes dans le monde, la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, c'est le monde blanc, comme on disait jadis, c'est un monde occidental, et l'arrivée de la Chine est quelque chose de très novateur. Maintenant, sur le fond du sujet, moi j'ai regardé minutieusement le plan de paix, c'est pas vraiment un plan de paix, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même quelque chose, c'est plutôt on récapitule des grands principes, les grands principes de l'ONU. Voilà. La Chine essaie de faire prévaloir le droit international, de faire prévaloir la pondération et la sagesse. Il faut voir que les intérêts chinois sont quand même spécifique. La Chine étant le pays le plus peuplé du monde, je le disais tout à l'heure, avec quasiment l'économie désormais la plus puissante du monde, les Chinois, ils ont un principe qui les caractérise, un principe taoïste, c'est le principe dit du wu wei, c'est-à-dire le non-agir. C'est-à-dire que les Chinois n'agissent que lorsqu'ils y sont absolument contraints et forcés, mais ils aiment bien aussi que laisser les choses évoluer selon leurs tendances naturelles. Actuellement, le monde tel qu'il va fait que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Donc les Chinois ne veulent pas que les choses changent, ils veulent que les choses continuent en l'état, puisque c'est ce qui assure leur prééminence. Donc de ce point de vue-là, les Chinois sont très aimeraient beaucoup que la guerre en Ukraine s'arrête au plus vite, pour pouvoir reprendre le commerce, reprendre les relations avec l'ensemble des pays du monde, y compris avec l'Europe. Tout ce qui risque de nuire à la paix mondiale est quelque chose que les Chinois fuient. Ils n'ont donc pas exactement quand même les mêmes intérêts que les Russes et qui sont directement attaqués. Les Chinois donc essaient de faire prévaloir ce plan de paix qui est plutôt un rappel de bons sentiments et de principes de droit. Que la clé de la situation se réside à Washington. C'est Washington et Washington seul qui peut décider du jour au lendemain de l'arrêt de la guerre. D'ailleurs, Donald Trump, vous savez, avec les propos à l'emporte-pièce qu'on lui connaît mais qui sont parfois pleins de bon sens, l'ancien président américain Donald Trump a dit que s'il revenait à la Maison-Blanche, il réglerait l'affaire en 48 heures.
Merci beaucoup, Monsieur Asselineau. C'était un plaisir de parler avec vous.
C'était François Asselineau, homme politique français. Il a réagi au projet de résolution de la Russie et de la Chine, rejeté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prévoyait la création d'une commission afin de mener une enquête impartiale sur le sabotage des pipelines Nord Stream. Il a ensuite commenté l'intention de la Grande-Bretagne d'envoyer à l'Ukraine des munitions à uranium appauvri, non sans risque pour la santé de la population. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Rassurez-vous, moi Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.